Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on est à 4 mois de l'élection présidentielle en France. Avec toutes les surprises que nous ont réservées les primaires, eh bien, on assiste peut-être dans les débats sur l'école à un mouvement des plaques tectoniques. Des journalistes de gauche qui réclament des dictées, des pédagogues et des sociologues égalitaristes qui se demandent s'ils n'ont pas fait fausse route. Bref, c'est tout un monde déboussolé qui ne comprend pas pourquoi la France, avec autant de moyens financiers, obtient si peu de ses élèves. Au moins 20% d'entre eux ne maîtrisent pas la langue française à l'entrée en 6e. L'éducation nationale, premier budget de l'État, surnommé le mammouth, incapable de se réformer de l'intérieur sous un gouvernement de gauche comme de droite, peut-elle enfin faire l'objet, non pas de déclarations politiques de campagne, mais d'un vrai programme de changement. Nous allons en discuter avec nos invités qui ont tous des avis différents, sauf pour le constat, rien ne va plus dans l'école en France. Alors autour de la table, Bernard Tout-le-Monde, bonjour.
Bonjour.
Ancien recteur, ancien inspecteur général, vous avez conseillé plusieurs ministres de l'éducation nationale, vous connaissez donc très très bien la machine de l'intérieur, et vous publiez « Et si on tuait le mammouth ?» Carole Barjon est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chef du service politique à l'Obs, mais aussi parent d'élèves, vous avez été parent d'élèves, et vous publiez « Mais qui sont les assassins de l'école ?» Dominique Nachury, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes député, Les Républicains du Rhône, et vous vous intéressez particulièrement au dossier éducation, notamment à la commission à l'Assemblée nationale, entre autres.
Oui, et c'est un parcours historique aussi, puisque je suis aussi parent d'élèves, parent d'enfants scolarisés, mais aussi parent d'élèves dans les différents établissements ou structures départementales, régionales de la PEP.
Alors ça, c'est la Fédération des parents d'élèves, la deuxième fédération voilà. Des parents d'élèves, la fédération majoritaire FCPE est plutôt d'ailleurs affiliée à la gauche. François Fillon, qui en ce moment a d'autres chats à fouetter que les résultats des élèves, évidemment, mais qui fut ancien ministre de l'Éducation, tout comme Benoît Hamon, d'ailleurs, c'est intéressant. Pas longtemps, c'est vrai, tous les deux, mais c'est vrai aussi qu'il y a de la rotation au mammouth. Hein. Vous dites d'ailleurs, Carole Barjon, que c'est un portefeuille dont personne ne veut, qui est vécu comme une punition politique.
Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens encore de la tête de François Bayrou, qui pourtant est professeur agrégé de lettres classiques, comme on sait, qui n'était pas très très content parce que ils savent tous que c'est un ministère explosif. Alors là, il s'agit de ministre de droite. Hein. Fillon également, il faisait pratiquement une tête d'enterrement quand il a été nommé là. Parce qu'ils savent que c'est un nid à emmerde, pardon, c'est comme ça que l'appelait Chirac d'ailleurs, que c'est un bastion de gauche, hein, l'éducation nationale.
Même si l'éducation nationale ne vote pas toujours à gauche,
non,
la preuve
bien
avec
sûr,
la défaite de Jospin.
Bien entendu, mais c'est quand même globalement de là que le Parti Socialiste a longtemps, parce que ça change un peu depuis quelques années, mais a longtemps, enfin
c'est là
le,
qu'il faut
le
draguer,
bastion
en gros, pour la gauche.
C'était le bastion du PS, donc c'était pour des ministres de droite, absolument casse-gueule comme ministère.
Nous serons en ligne également tout à l'heure avec le philosophe Robert Redeker, ancien professeur de lycée, menacé de mort d'ailleurs par un groupe islamiste en 2006, à propos d'une tribune publiée dans le Figaro à l'époque. Il publie aujourd'hui un livre sombre, L'école fantôme. Voilà, on en discute. Donc quel avenir pour l'école en France à quelques mois de l'élection présidentielle ? Carole Barjon, à la question « Qui sont les assassins de l'école ?», vous vous répondez en gros dans votre livre que ce sont précisément ceux qui lui voulaient tant de bien.
Oui, enfin en partie. Il y a plusieurs responsables. Il y a d'abord la responsabilité politique, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun président de la République qui en a fait réellement une priorité. Enfin, il y a eu Jospin en 89, mais ce n'était pas forcément les meilleures innovations possibles. Et puis, il y a des gens dont on ne parle au fond jamais. On parle souvent beaucoup des ministres hein, de l'Éducation nationale. Mais ils sont assez souvent prisonniers de leur administration, surtout quand ils sont à droite. Jospin a eu beaucoup plus de marge de manœuvre, ça c'est vrai, et était plus soutenu.
Oui, c'est ça. En gros, vous dites un ministre de l'Éducation nationale, voire un président de la République, n'a finalement aucun pouvoir sur le fonctionnement dysfonctionnement.
Non. Le président de la République, pas du tout. Je pense au contraire, et je consacre un chapitre à ça, que la volonté présidentielle... Si vous voulez, la France est quand même un vieux pays jacobin. Et donc, quand il y a une volonté qui s'exprime au plus haut niveau de l'État, il se passe encore quelque chose. Et si un président de la République se saisit de ce sujet, le met en priorité, et surtout, assure le suivi ensuite.
C'est ça, on est bien d'accord. Il y a des déclarations, mais il n'y a pas de suivi ensuite.
Et donc, qui surveille ce dossier comme le lait sur le feu, je pense qu'il peut encore se passer quelque
chose. Quand François Hollande dit au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, il faut absolument que les élèves maîtrisent la langue française, parce que ce serait finalement une des raisons des problèmes de la haine, par exemple, on continue de diminuer les heures de français, c'est ce que vous
dites. Alors, justement, d'abord, il faut quand même noter, parce que c'est très important, que moi, c'est quand même la première fois depuis très longtemps que j'entends un président de la République, ou en tout cas François Hollande, et un président de gauche, dire ça après des attentats et mettre au fond en relation ce qu'il pouvait y avoir entre des jeunes déboussolés qui commettent des attentats, des jeunes français, et l'absence de maîtrise de la langue française et ces 20% d'enfants qui ne maîtrisent pas la langue française à l'entrée en sixième. Et pourquoi il a fait cette relation? Parce qu'elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde, mais c'est simplement parce que quand vous apprenez correctement à lire et à écrire, et donc à pouvoir construire une phrase, nous savons tous que lorsque nous écrivons un texte ou même une lettre, nous sommes obligés... on construit un raisonnement.
Aujourd'hui, les mauvais résultats des écoles, des élèves français, et en particulier des plus faibles, ça fait vraiment un consensus politique ou pas, Bernard, tout le monde?
Oui, du point de vue du diagnostic, ça fait consensus. Je pense que d'ailleurs les statistiques.
Il y a plus de myopie, il y a plus d'aveuglement.
En gros, on ne peut plus contester les études PISA.
Or, au début,
les premières études
de l'OCDE,
PISA, je m'en souviens très bien, elles étaient contestées parce que c'était une méthode internationale qui regardait les compétences des élèves. Et en France, nous, on prétend donner des connaissances et pas des compétences, etc. Tout ça. Bon. Et puis à force, quand même. On n'a toujours pas eu le choc PISA qu'ont eu l'Allemagne, qu'a la Pologne aujourd'hui, ou le Portugal.
L'Allemagne qui a redressé la barre en quelques années,
d'ailleurs. Absolument, tout à fait. Oui. Donc, il y a un consensus sur le diagnostic, mais après, sur les remèdes, je pense qu'il y a aussi, en gros, un consensus sur les remèdes. Oui. Simplement, politiquement, alors là, il y a un trou. C'est-à-dire que, politiquement, les ministres, vous l'avez dit, Mme Barjon le disait, les ministres, ils sont là pour un an ou deux maximum, on en a trois en cinq ans à chaque fois, des ministres qui s'en vont de droite ou de gauche, je pourrais citer de très nombreux exemples, et qui prétend à chaque fois que ce qu'a fait le prédécesseur n'est pas bien, et donc on rechange la réforme, et on est tout le temps dans des réformes en surface.
D'ailleurs, on a parlé d'une loi de refondation de l'école, comme s'il n'y avait rien eu
avant. Absolument,
donc,
tout à fait,
c'est inquiétant.
Au bout de deux ans, M. Hamon est arrivé. Sa première œuvre, ça a été de défaire ce qu'avait fait son prédécesseur. Mme Najat Vallaud-Belkacem arrive, fait la même chose. Et je pense que ça va se continuer comme ça le prochain coup. C'est quand même extrêmement fâcheux.
Alors, en même temps, Carole Barjon, dans son enquête, dit qu'il y a une extraordinaire continuité par rapport au petit noyau dur qui tient l'éducation nationale, à savoir la rue de Grenelle. Vous êtes allé à la rencontre d'une petite élite... souvent du troisième âge, il faut bien le préciser, inconnu du grand public, qui fait la pluie et le beau temps sur le mammouth de la rue de Grenelle.
Oui,
des sociologues, des pédagogues.
Oui, parce que si vous voulez, d'abord des livres sur l'école, il y en avait vraiment énormément, il y avait beaucoup de professeurs qui ont écrit sur le sujet, etc. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment aller rencontrer, au-delà des ministres et des présidents de la République.
Qui sont ces gens?
C'était les gens de la haute administration qui, au fond, ont une énorme influence sur les programmes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les contenus. Je trouve qu'on parle très souvent de l'école, notamment d'ailleurs les politiques. On l'a vu d'ailleurs lors des récents débats dans les primaires de droite et de gauche. Immédiatement, on dévie sur l'administration, la manière de gérer le mammouth et la décentralisation, l'autonomie des établissements, etc. Je ne dis pas.
On parle aussi beaucoup de la réforme de la grammaire à laquelle personne ne comprend rien aujourd'hui.
Franchement, c'est assez récent. Ça m'amuse d'ailleurs parce que c'est moi qui ai sorti l'histoire du prédicat dans mon livre. Bon, c'est moi qui l'ai relevé. Et au fond, vous voyez, mon livre, il est sorti cet automne, il a fallu plusieurs mois. Donc, alors, ce que je pensais important...
Qui sont ces inconnus de la rue Grenelle qui tiennent les clés de la boutique, finalement, inamovibles, alors, même avec les alternances politiques?
Alors, je parle à la fois au présent et au passé, hein, si je puis dire.
Vous en avez un en face de vous.
Moi, j'ai voulu rencontrer...
D'ailleurs, vous ne m'avez pas rencontré.
J'ai voulu rencontrer des gens qui ont eu une énorme influence... notamment celui qu'on appelle le pape des pédagogues, c'est-à-dire Philippe Mérieux, ainsi que François Dubé, qui est un grand sociologue de l'école et qui a parlé à l'oreille des ministres depuis 25 ans.
Et tout récemment de François Fillon, d'ailleurs, me semble-t-il. Tout le monde le consulte, François Dubé.
Oui, absolument. Il a aidé aussi Alain Juppé lorsque Alain Juppé a fait son livre sur l'école. Enfin, et évidemment, lui étant de la deuxième gauche, donc était également très proche des ministres de gauche.
Mais qu'ont-ils commis d'irréparables sur l'école française, ces inconnus-là du grand public?
Alors, c'est compliqué parce que chacun n'a pas exactement la même responsabilité. Je pense qu'il y a, dans ce qui arrive à l'école, moi je parle surtout de l'école primaire, hein, parce que pour moi c'est juste l'essentiel. Je pense que le collège, dont on a énormément parlé pendant des années en qualifiant ça de maillon faible, parce que c'est vrai que les élèves étaient en difficulté, mais en réalité ces difficultés-là, elles se révèlent au collège, mais elles commencent bien avant. Bon. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet sur la primaire. Je pense qu'il y a eu d'abord... il y a 30, enfin, à la fin des années 60, il y a certainement eu une grosse erreur sur la généralisation de la méthode globale.
Pour l'apprentissage
ce qu'on appelle la méthode globale, qui n'est jamais la méthode globale pure, etc., mais enfin qui est la méthode mixte, semi-globale.
Donc de mauvaises méthodes d'enseignement de la lecture.
Parce que ça fait appel beaucoup à la photographie des mots, par exemple. Il y a eu, et ce qui est fondamental, on a supprimé des heures de français. Je veux dire, c'est aussi bête que ça.
Avec l'argument de on peut faire du français autrement, notamment en faisant de l'histoire, notamment en écrivant au moment des leçons de mathématiques, etc. Ça a été ça longtemps, l'argument.
Oui, absolument.
Pas besoin de dire c'est l'heure du français pour faire du français.
Mais quand les fondamentaux, malgré tout, sont acquis.
Je précise les arguments.
Ça a été l'argument pour la grammaire, si vous voulez. On a supprimé les cours spécifiques de grammaire. À un moment donné, dans les années 90, je crois, ou fin des années 90, et on les a remplacés par quelque chose qui s'appelle la séquence. Alors la séquence, c'est le cauchemar des professeurs de français, parce que la séquence, c'est synonyme en fait, ça veut dire qu'il n'y a plus de leçons spécifiques de grammaire. Ça veut dire qu'on étudie la grammaire à l'occasion de l'étude d'un texte littéraire ou autre. Bon. Or, d'après tous les professeurs, moi je ne suis pas professeur moi-même, ils vous expliquent que la grammaire, ça mérite quand même un approfondissement, puisque c'est quand même le premier pas vers le raisonnement, la grammaire.
Oui, la structure de l'esprit, la grammaire. Hein.
Bon, donc il y a eu ce genre de choses, il y a eu les méthodes de lecture, la diminution continue des heures de français depuis 1969, 630 heures de moins de français à l'école primaire. Vous voyez, bon, c'est quand même, énorme.
Sur l'école primaire, écoutez, très franchement, il y a des décisions qui ont été prises, par exemple, par M. Darcos, qui était de supprimer les classes le samedi matin. Eh bien, le résultat, si vous voulez, c'est qu'en 30 ans, les élèves ont perdu dans le primaire 6 heures d'enseignement par semaine. Faites le calcul, ça veut dire qu'ils ont perdu un an de scolarité.
Ans. C'est pas en 30 ans, puisque...
En 30 ans, si, ça a commencé avec Edgar Faure, 1969, où il donne le samedi après-midi. Ensuite, Jospin rajoute une heure le samedi matin de liberté aux enseignants. Et puis ensuite, Darcos, plus de classe le samedi matin.
Mais sur ces 34 heures, c'est 30 ans au lieu de 30 heures de gouverné majoritairement par la droite, d'ailleurs. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas.
La droite et la gauche.
Oui, mais alors comment est-ce possible?
Alors d'abord, pour la suppression des heures de français, enfin des heures de cours en général, c'est une question budgétaire. Ça,
non, c'est pas une question budgétaire.
Aussi.
Donc, quand
dire
c'est
que
la
les enseignants font 30 heures par semaine, c'est pas une question budgétaire. Leur service était de 30 heures par semaine. Mmh. On a abaissé leur service à 24 heures. Voilà.
Oui, mais ça, il y a des revendications syndicales
On n'est pas obligé, je m'excuse, on n'est pas obligé de
les
accepter.
Mais je dis pas le contraire, monsieur. Je pense qu'on est plutôt d'accord.
Mais ça, c'est les ministres qui prennent ce genre de décision.
Je pense qu'on est plutôt d'accord.
Et pas les pédagogues, excusez-moi.
Non, mais il y a deux choses différentes, monsieur. Il y a le nombre d'heures qu'on consacre à l'enseignement des fondamentaux et vous avez ensuite les méthodes ou la manière d'enseigner. Vous avez toute une petite musique qui a été... Je ne conteste pas la nécessité de la pédagogie. Il faudra être idiot pour contester la nécessité de la pédagogie. On préfère tous des professeurs qui savent transmettre leur savoir... que ceux qui ne le savent pas.
En ce moment, parce que leur formation est très déficiente.
Donc, la pédagogie est nécessaire. Simplement, il y a eu des dérives pédagogistes et il y a eu une petite musique pendant des années qui était qu'il valait mieux mettre l'élève au centre du système que le savoir, alors que pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux?
C'est l'école qui vous met. C'est l'école qui vous met au
service du système. On est dans un service public, on est au service des usagers. Les usagers sont les élèves.
Bien sûr, alors, mais on doit pas forcément dévaloriser l'idée de savoir.
On est bien d'accord.
Dominique Nachion, vous qui êtes député Les Républicains, vous avez vu ce récent sondage BVA Lacroix sur les attentes des parents. 9 parents sur 10, que leurs enfants soient dans le public ou le privé, d'ailleurs, souhaitent voir l'école réformée. On a seulement 42% des parents de lycéens qui pensent que l'école offre à tous la maîtrise des fondamentaux, en gros lire, écrire, compter. Les 2/3 des parents estiment que l'école ne sait pas s'adapter à chaque enfant et on a 86% des sondés qui souhaiteraient que leurs enfants puissent effectuer leurs devoirs à l'école avec l'aide d'un adulte compétent. Vous voyez, les parents disent des choses très simples, oui, compréhensibles de tous. Il y a encore quelques années, les parents affichaient une relative confiance en l'école, même si l'éducation nationale était à feu et à sang à l'intérieur avec des débats interminable. Aujourd'hui, il y a clairement un mécontentement de l'opinion publique, vous diriez ? Alors,
je crois que les parents ont des demandes concrètes adressées à l'éducation nationale, qu'ils ont des ambitions légitimes pour leurs enfants. Et par contre, leurs attentes sont parfois un peu paradoxales. Oui. D'ailleurs, vous le notez dans les différentes réponses qui sont faites au sondage. Je pense aussi qu'ils sont un peu perturbés par le fait qu'on confie à l'éducation nationale toutes les missions que la société ne s'est pas réglées par ailleurs et qu'elle a perdu ce qui doit être son fondamental, puisqu'on a parlé tout à l'heure c'est sa mission première, qui est la transmission des savoirs, qui n'exclut pas non plus la transmission des compétences à travers la transmission des savoirs. Et c'est vrai que on voit arriver toutes sortes de problématiques. Alors on vous parle de la mixité sociale, les problématiques de la politique de la ville, etc. Beaucoup de choses veulent être réglées par l'éducation nationale qui ne peuvent pas l'être, même si l'éducation nationale ne doit pas vivre enfermée. Elle vit dans un environnement. Mais je crois que si on n'affirme pas aujourd'hui que sa mission principale, c'est la transmission des savoirs et des compétences, et qui est basée notamment sur l'acquisition des fondamentaux, et qui permet ensuite justement d'aller plus loin et d'ouvrir... On ne peut finalement bien s'ouvrir l'esprit et bien connaître que si on maîtrise... l'essentiel. Et qu'il y a parfois une violence qui est faite de l'impossibilité de s'exprimer correctement face à quelqu'un. Donc je crois qu'on est d'accord là-dessus, mais je crois qu'il faut avoir une vraie... Regardez dans le Conseil national des programmes, dont je ne sais pas s'il est utile ou pas, mais on a fait rentrer tout plein de professionnels qui ont par ailleurs des qualités, mais est-ce que la sociologie a forcément
des
programmes
des parents quand même majoritairement quand même qui affichent maintenant un mécontentement palpable et que par ailleurs l'éducation est rarement un sujet de campagne présidentielle, non Bernard tout le monde
un point là, un exemple concret. Il y avait autrefois dans les établissements scolaires des répétiteurs. Il y avait des adjoints d'enseignement, c'est-à-dire que les élèves, leur travail personnel, ils le faisaient dans l'établissement, sous la direction de personnel qui était en quelque sorte des assistants des professeurs. Et ce qu'on a fait, c'est pas la droite ni la gauche, c'est les deux. Hein, ce qu'on a fait dans les années 70-80, on a supprimé tous ces gens-là, on en a fait des professeurs. C'est-à-dire que on a externalisé, parce qu'aujourd'hui, les enfants... Alors, les enfants de milieux populaires, je ne peux même vous dire, c'est impossible chez eux de travailler, pour la plupart d'entre eux.
Carole Barjon, Dominique Nachury, Bernard, tout le monde, vous restez avec nous, on se retrouve juste après le flash. On va donner la parole également au philosophe Robert Redeker qui publie « L'école fantôme », sous-entendu « Le mammouth bouge-t-il encore ?» avec un tel constat. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Restez avec nous, les voisins, sur RFI, bien sûr. On se retrouve après le flash.
RFI Talent.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. On parle éducation aujourd'hui avec Bernard Toulmonde, ancien recteur, ancien inspecteur général, qui a conseillé plusieurs ministres de l'éducation nationale et qui publie « Et si on tuait le mammouth ?» puisqu'on s'interroge sur l'avenir de l'école en France avec de bien piètres résultats dans les comparaisons internationales. En tout cas, Carole Barjon, journaliste politique à l'Obs, qui publie « Mais qui sont les assassins de l'école ?» et Dominique Nachury, député Les Républicains du Rhône. Le débat se poursuivait d'ailleurs pendant le flash, vous n'en faisiez pas profiter nos auditeurs, c'est bien dommage. Bernard Toulmonde qui disait à Carole Barjon, finalement tous ces piliers qui gèrent le mammouth en sous-main inconnu du grand public, à savoir les inspecteurs généraux, les sociologues, vous leur prêtez un pouvoir qu'ils n'ont pas. C'est ce que vous disiez, Bernard Toulmonde, à Carole Barjon. En réalité, le mammouth est si lourd à bouger que personne ne peut avoir d'influence sur lui, c'est ça?
Les ministres, justement, on parlait des ministres tout à l'heure. Ils ont chacun leur lubie et leur réforme en stock, etc. Mais ça ne reste qu'à la surface. Regardez la réforme des collèges. Madame Najat Vassem s'est lancée là-dedans. Il y a autant de réformes des collèges que de collèges en France aujourd'hui.
Sous-entendu, les professeurs continuent de faire leur cuisine en classe. Mais
parce que dans chaque établissement, on a les élèves qu'on a.
Voilà. Au nom de la liberté pédagogique des enseignants.
On croit au contraire qu'on fait l'uniformité et c'est totalement faux. Il vaudrait mieux accepter la différence et réguler ces différences. Bon.
Et dans le comité de suivi de la loi de refondation de l'école, on s'aperçoit bien que le temps nécessaire pour que arrive jusque à l'établissement les grands principes, les grandes orientations d'une réforme, c'est extrêmement long et difficile. Ce qui montre bien que s'il y a nécessité de faire évoluer les choses, il faut aussi avoir dans la structuration une vraie réflexion et une vraie réorganisation.
Et un suivi ensuite au-delà du programme politique, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant.
Alors,
on va donner la parole ensuite à Robert Redeker.
Ouais, ce que je voudrais quand même dire, c'est que il y a eu une influence, je suis désolée, des gens en tout cas que je cite dans mon livre, notamment des gens qui ont élaboré les réformes du français. Alors là, c'est
de l'enseignement du français.
De l'enseignement du français, pardon. C'était plus pour le tout début du collège, mais la grammaire a été réformée. Je consacre un chapitre à un monsieur qui s'appelle Alain Boissineau, qui a introduit la linguistique dans l'enseignement du français, si vous voulez, parce que la linguistique était hyper à la mode dans les années 70, c'était vraiment la discipline phare, et donc ça a influencé beaucoup d'universitaires.
Alors, qualifié par le sociologue Marcel Gaucher comme un assassin de l'école. Lui,
absolument,
hein, c'est ça.
Oui, voilà, un criminel absolu.
Criminel absolu dans les salles de classe. Bon, c'est peut-être. Enfin, il y a bien l'expression les Khmer rouges de l'éducation, hein, à un moment donné dans votre livre, qu'on a retrouvé dans la bouche de certains.
C'était le mathématicien Medaille Fields, Laurent Laforgue, qui avait utilisé cette expression.
Donc, ces pédagogistes qui veulent faire table rase du passé pour que tout le monde soit à égalité.
Et créer l'homme nouveau.
Nous sommes en ligne avec.
Quand même là, non, parce que en plus de ça, il y a un Conseil national des programmes. Il date d'ailleurs depuis très longtemps, au moins de la loi Jospin de 1989 qui a créé ça, justement pour le rendre relativement indépendant du ministre. Et le Conseil national des programmes est formé de personnalités, et c'est pas le ministre qui décide de la totalité des programmes. Alors c'est sûr que les ministres ont leur lubie, etc. Mais le Conseil des programmes, il a une marge de latitude. Et les gens que vous avez cités, d'ailleurs Alain Boissineau, a finalement d'ailleurs démissionné du Conseil national des programmes, parce qu'il en avait assez.
Bon, nous sommes en ligne avec le philosophe Robert Redeker, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les voisins.
Vous avez été professeur de lycée pendant une trentaine d'années, et vous publiez L'école fantôme. Alors c'est pas un livre qui donne beaucoup d'espoir, vous dénoncez une école récréative, dopée au plaisir, aux efforts du vivre ensemble, qui ne serait pas l'effort intellectuel en tant que tel, et finalement comme aveugle face à sa propre déchéance. C'est bien cela?
C'est avant tout une école qui a jeté les professeurs dans le désespoir. Ce désespoir est quelque chose de palpable que l'on rencontre tous les jours. Les élèves, nous venons de l'entendre, qui a jeté les élèves dans l'ignorance et... dans l'ignorance, et les parents, il suffit de parler avec les parents dans le désarroi, donc désespoir, ignorance, désarroi. C'est un triste spectacle.
Sur quels exemples vous fondez-vous?
Le désespoir, les professeurs ne peuvent plus exercer leur métier. et sont contraints à devenir des sortes de d'animateurs multitâches, comme l'on rencontre dans d'autres professions.
Là, vous parlez, vous parlez pour l'école primaire, pas pour le lycée, non ? Animateur multitâche, est-ce qu'un professeur de lycée aujourd'hui est un animateur multitâche ?
C'est de plus en plus fréquent au collège et au lycée.
Vous faites allusion à l'abandon progressif des disciplines, au dire de certains, c'est ça, où la discipline en elle-même n'est plus reine, mais puisqu'il y a cette injonction de travail interdisciplinaire.
Voilà, d'une part, cet abandon progressif des disciplines, mais également l'idée qui est peu à peu proposée aux élèves des collèges et des lycées, selon laquelle, finalement, le plus important à l'école, ce n'est pas la discipline que l'on étudie, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas ce que l'on acquiert, mais c'est finalement une façon de vivre ensemble. Ce que je reproche aux réformes scolaires depuis une trentaine d'années, c'est qu'elles ont fini par faire passer le contenu pour secondaire. Alors, je vais donner un exemple, voilà, qui me revient à l'esprit en ce moment. Alors, je n'ai pas à dire de nom, ni de lieu, mais lorsque j'étais professeur dans un lycée, il arrivait souvent que le proviseur décidait d'organiser des festivités de toutes sortes, des mascarades, des carnavals, des concerts rock, etc. Et cela tombait souvent pendant mes heures de philosophie. Et je me battais...
C'est ça, il y a un petit traumatisme, d'accord.
Oui, je me battais avec l'administration pour garder mes élèves avec moi. Parce que, non pas que je voulais avoir quelques heures de plus, mais parce que je voyais bien que l'on mettait dans leur esprit l'idée que apprendre, c'est la... Apprendre un contenu, c'est finalement la dernière des choses qu'il y a à faire à l'école, et que être en cours à étudier Descartes ou l'analyse logique ou l'analyse grammaticale, c'est finalement ce qu'on fait à l'école quand il n'y a plus rien d'autre chose à faire à l'école. Voilà ce qui est arrivé, et voilà ce qui a jeté les professeurs dans le désespoir et les élèves dans...
Alors, vous n'êtes pas d'accord, Bernard Tout-le-Monde, sur ce qui a jeté les professeurs dans le désespoir ?
Par exemple, je prends un exemple très précis, parce que je suis à l'origine de ça. On a introduit en lycée, dans les années 98-2000, les TPE, les travaux personnels encadrés. C'est-à-dire que
qui fait gagner beaucoup de points au bac, pour avoir
qui fait gagner des points au bac, absolument. Et en même temps, les élèves y apprennent énormément. C'est plébiscité par les élèves parce que c'est une nouvelle méthode, c'est apprendre à apprendre. Or, aujourd'hui, vous le savez bien, les élèves, ils savent des tas de choses que même quelquefois les professeurs ne savent pas. Il suffit aujourd'hui d'avoir la petite poussette, Michel Serres, la petite poussette pour avoir les infos. Eh bien, l'encadrement par le professeur est quelque chose. Moi, je pense que là, au contraire, le désespoir des enseignants, il vient de leur gestion, qui est aujourd'hui une gestion totalement archaïque, où on envoie les professeurs les moins expérimentés devant les élèves les plus difficiles, toute la banlieue parisienne, c'est tous les jeunes, la moitié des nouveaux certifiés de chaque année sont envoyés dans les académies de Créteil et de Versailles, sur les postes les plus difficiles. Après, on s'étonne que les élèves ne savent rien.
Ça, ce sont les raisons du désespoir pour vous.
Oui, absolument. Et les avancements, je pourrais vous montrer. Il y a quelques jours, le ministère sort la circulaire pour le passage à la hors-classe des agrégés. Eh bien, c'est uniquement à l'ancienneté. Ah, mais si vous êtes en... Alors, l'ancienneté, ça compte, je l'ai l'or, 155 points pour l'ancienneté. Si vous êtes en ZEP, vous avez droit à 20 points. Bon, alors, non, mais attendez, faut arrêter ça. Il faut vraiment, aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui se dévouent plus pour le système, eh bien, ceux-là, il faut les aider. Or, le système, aujourd'hui, il désespère les enseignants, parce que pourquoi se casser ? Pourquoi se défoncer pour ses élèves, si de toute façon, eh bien, ça ne change rien ? Voilà.
C'est vrai que la gestion des ressources...
Dominique Nachury, député Les Républicains.
La gestion des ressources humaines... Ça vous fait rire,
mais
quelque part, c'est vrai qu'il n'y en a pas.
C'est la première entreprise publique, l'éducation nationale.
Il y a quand même un million de...
Troisième entreprise mondiale.
Voilà, un million de personnes, pratiquement 900 000 enseignants, et on parle encore d'en rajouter, pas forcément d'ailleurs, en ayant bien évalué comment on avait déjà utiliser l'ensemble des ressources qui étaient mises à disposition. Et je crois que là, il y a vraiment du gâchis. Il n'y a pas forcément la bonne personne à la bonne place et la bonne reconnaissance pour le rôle qui est tenu. Je crois que c'est un vrai chantier, mais auquel il faudra vraiment... Et je pense que les enseignants peuvent, et notamment ceux qui sont engagés, ils sont très favorables. Oui. Ceux qui sont très engagés dans leur métier, et je pense qu'il y en a quand même une proportion importante.
Ah oui. Robert Rodecker, alors je voudrais qu'on redonne la parole à Robert Rodecker au téléphone, philosophe, ancien professeur de philo au lycée pendant plus de 30 ans. Vous êtes clairement, en tout cas à travers votre livre, l'école fantôme, dans la lignée de ces intellectuels, je dirais pas forcément de droite, anciennement de gauche, mais en tout cas des intellectuels de la réaction, antilibéraux, qui s'indignent de l'abandon de toute ambition éducative au cœur de l'école, non ?
Alors d'abord, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, je pense que l'école doit être, c'est Alain qui m'a appris ça, mais aussi
le philosophe,
Arendt, le philosophe Alain, que l'école doit être retardataire. Voilà, archaïque et retardataire.
Donc surtout pas d'écran numérique à l'école, surtout pas courir après la modernité, d'accord.
Surtout pas de communication, surtout pas courir, comme vous le dites très bien, après la modernité. Surtout, on remarquera que dans les écrans, les tablettes, etc., ce qui est important, c'est surtout l'objet. L'objet est plus important que le savoir, l'objet est la manipulation. Et nous avons affaire alors à une école avec le maximum de communication et le minimum de transmission des connaissances. Donc, je crois que l'archaïsme des l'archaïsme des méthodes qui vient d'être critiqué un peu sévèrement, c'est quand même, ça revient quand même à critiquer quelque chose qui a très très bien marché pendant
et qui serait un gage de réassurance pour les jeunes, finalement, cette école éternellement retardataire. Carole Barjon, vous êtes d'accord avec ça ou pas? L'école doit être, par définition, retardataire. C'est quand même assez osé. En tout cas, vous vous dites dans votre livre, il ne faut pas confondre l'élitisme et l'exigence. Sous-entendu, effectivement, il faut de l'exigence, oui. ce que dit Robert Rodecker.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup des professeurs que j'ai interrogés, notamment l'association Sauver les Lettres. Je ne sais pas si elle doit être retardataire, mais en tout cas, je crois que là, le problème qui est posé, c'est ce qu'on appelle la sanctuarisation de l'école aussi. C'est-à-dire, est-ce que l'école doit être vraiment
une
un lieu de vie,
une bulle coupée du monde aussi,
ou une bulle coupée du monde si on veut être à l'autre extrême? Il y a peut-être quand même un juste milieu. Bon,
elle peut pas être coupée du monde.
On ne peut pas être coupé du monde. En revanche, je pense que ce qui tient quand même les matières étudiées quand le professeur fait son cours. Là, moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi on n'avait pas interdit les portables dans les écoles, pardon. Ça, c'est peut-être retardataire, mais je pense que ce serait une mesure absolument salutaire. Et c'est quelque chose qui ne vient pas forcément dans le débat. Oui, l'école doit être pour partie sanctuarisée. Le professeur,
non, attendez. Vous avez lu Michel Serres, j'imagine, et Monsieur Rodecker connaît bien, puisque c'est un philosophe, Michel Serres. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « Petite poussette ». Lisez aussi la conférence qu'il a faite à l'Institut de France, à l'Académie française. Vous le trouvez sur Internet, il y a 4 pages, c'est extraordinaire. Avec Michel Serres, qui est quand même un grand personnage, qu'on entend sur France Info très, très régulièrement. Eh bien, il dit qu'aujourd'hui, si vous voulez, les élèves, vous ne pouvez pas les empêcher, vous ne pourrez pas les empêcher d'avoir leur portable et tout ça. Et si vous l'interdisez dans l'établissement, ils l'auront à l'extérieur. De toute façon, ils ont l'info aujourd'hui. Ils ont les cours, il y a les MOOCs, etc. Ils ont des tas de choses. Aujourd'hui, l'enseignant...
ça n'est pas la même chose.
L'enseignant, aujourd'hui, effectivement... c'est moins, il devient moins un transmetteur pur de connaissances, mais quelqu'un qui donne du sens, qui encadre le travail, qui fait réfléchir
mais
les élèves.
Mais il doit faire les deux. Il doit faire les deux.
Oui, mais sans les connaissances aujourd'hui, voilà. Elles sont aussi
Dominique
à l'extérieur.
Dominique Nachery,
sans dire que l'éducation doit être retardataire, il faut sans doute qu'elle résiste à un certain nombre d'influences extérieures. Quant au numérique, on ne pourra pas, on ne peut pas en nier l'intérêt qu'il peut avoir. Ça doit rester un outil. Et bien un sûr. Outil, justement, au service d'un objectif d'apprentissage. Voilà, je crois qu'après, il faut trouver les...
Non mais en fait, si vous voulez, c'est les
juste milieu.
Quels sont aujourd'hui dans le débat, l'éducation n'est pas encore vraiment présente dans la campagne présidentielle qui débarre à peine, puisqu'on sort à peine des primaires, mais quelles sont aujourd'hui les grandes lignes de fracture, finalement, Carole Barjon, vous qui êtes journaliste politique à l'Obs, qu'est-ce qu'on sait au juste des programmes et des convictions politiques des candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, entre François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon?
Bah justement, moi je reste sur ma faim. parce que ils sont tous là à dire oui, l'école est absolument prioritaire. Alain Juppé disait l'éducation c'est la mère de toutes les réformes. Hamon dit que l'école primaire.
Bon, mais alors qu'est-ce
Macron
qu'on fait
aussi, Fillon aussi. Bon, tout ça est parfait. Mais alors derrière, je trouve que pour ce qui est des mesures précises. Moi, j'attends encore.
Une journaliste politique qui nous dit ça, c'est quand même inquiétant.
Ah bah écoutez, oui, parce que alors on avait entendu il y avait Sarkozy. Bon alors il est plus dans la course, donc.
Bon, mais alors Dominique Nachur va peut-être nous renseigner sur le programme de François Fillon.
Oui, alors il y a moi je retiens surtout cet accent mis sur l'apprentissage des fondamentaux. Alors on me dirait c'est peut-être
oui,
un petit
après,
peu
récurrent. Oui, mais après il faut dire comment on les remet.
Oui, alors après la déclinaison précise, de toute façon, il est bien évident que ça nécessitera un temps à la fois d'élaboration et de concertation, parce qu'on ne fera pas non plus de réforme d'éducation nationale sans associer aussi ceux
qui sont...
Est-ce
que si la droite revient en pouvoir, on va se remettre à dégraisser le mammouth, comme ça a été le cas sous
alors,
Nicolas Sarkozy ?
Je crois qu'il y a... alors, vous avez
c'était
noté que combien
c'était...
C'était
dégraisser le mammouth qui était de Claude Allègre.
Vous voyez qu'il y a eu cette ambition souvent répétée, peut-être qu'un jour on y arrivera. Mais on est sans doute à un moment aussi, vu l'importance de ce grand ministère, un moment où il faudra réfléchir en termes de management. Et notamment peut-être avoir dans un cadre très national qui est celui des diplômes, des programmes et de la formation des enseignants, avoir ensuite une gestion un peu plus adaptée aux différents territoires. Peut-être que ça peut être aussi, puisqu'il y a maintenant de grandes régions, un avenir pour l'organisation de ces services-là. Mais moi,
je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous répondiez finalement, mais bon.
Oui.
Moi, en tout cas, dans mon livre avec Soazic Lemévé,
un effort à faire sur le management.
Oui,
et de toute façon, en revenir, je crois que ça c'est
veut dire
le premier
qu'on va
point.
À une politique de l'économie de moyens.
Non, pas l'économie de moyens, mais une organisation qui soit finalement étant plus adaptée au territoire, utilise mieux et en adaptation des moyens aux besoins.
Bernard, tout le monde.
Bon, je leur propose tout simplement de lire la fin de notre livre que nous avons écrit avec Soazic Lenévé, où nous leur donnons 17 propositions pour 2017,
ouais,
qui sont des mesures simples et pratiques.
On ne va pas énumérer les 17,
redonner
du pouvoir et de l'autonomie aux établissements scolaires.
Absolument, il faut donner du pouvoir aux établissements, il faut déconcentrer
le système. Y compris
pour
choisir les enseignants, par exemple.
Absolument, le profilage des postes. Je ne dis pas choisir les enseignants, mais je dis une mesure toute simple, profiler les postes. Ça se fait à l'étranger. Tous les établissements de l'AEFE, les postes sont profilés. C'est-à-dire qu'un enseignant est recruté par rapport au profil d'un poste. Aujourd'hui, les enseignants sont considérés comme étant des gens tout terrain, des véhicules tout terrain, qu'on envoie absolument n'importe où, dans des établissements qui sont aujourd'hui extrêmement différents.
Donc le chef d'établissement deviendrait une sorte de super chef d'entreprise ?
Non, pas du tout, puisque le profilage des postes, ça s'est d'ailleurs fait dans certaines académies, il y a des recteurs qui l'ont fait, notamment à Strasbourg par exemple, c'est l'équipe pédagogique qui va déterminer ce qu'on attend d'un enseignant dans telle ou telle discipline. C'est autre chose, comme partout dans le monde, et comme partout dans la fonction publique d'ailleurs, partout dans la fonction publique en dehors de l'éducation nationale, il y a un profilage du poste, vous avez un entretien avec les chefs, les équipes,
etc. Un profil de poste
est
défini.
Voilà. C'est tout simple.
Robert Redeker, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition
moi je trouve cette proposition très intéressante. Voilà. Parce qu'elle protège en même temps, ou elle doit protéger en même temps l'enseignant contre les pressions. Il faut les deux. Il faut que l'enseignant soit... Il y a beaucoup de mauvais professeurs et je crois que c'est lié à cette conception uniformisante de l'enseignement. Donc il faut évidemment que ce soit l'enseignement qu'il faut à la place où il est attendu, l'enseignant qu'il faut. Voilà. Et donc le profilage est très important. Mais en même temps...
ça fait quand même des années qu'on dit que ça serait une bonne piste, on n'a jamais réussi à le mettre en place, ce profilage.
Oui, comme ça doit être un enseignant de la liberté dans la liberté, il faut protéger cet enseignant contre le risque d'une sorte de soumission à
au chef d'établissement.
Pas au chef d'établissement, à ce qui entoure le chef d'établissement, c'est-à-dire les élus locaux, le curé, l'imam, ainsi de suite, les industriels locaux.
Puisque voilà. Vous parlez de religion, Robert Redeker, vous dites dans votre livre que la crise de l'école est vraiment une crise de la vie humaine. Alors, je ne sais pas si l'école est l'expression d'un symptôme ou la cause de cette crise de la vie humaine, mais en tout cas, on voit bien que cette crise de la vie humaine, à vos yeux, est une crise très profonde dans la société française et pas seulement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec l'errance intellectuelle de certains jeunes qui se tournent vers le djihadisme pour retrouver, on l'a beaucoup dit, un sens à leur vie ?
Si, probablement. Parce que, nous sommes dans une crise très grave qui est une crise métaphysique. C'est-à-dire, nous ne savons plus répondre à la question, nous n'avons plus répondre de façon forte à la question qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'un homme doit être et doit devenir, où nous n'avons de réponse que très partielle à cela. Or, l'école, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, savait répondre de manière très très nette à cela. Voilà. C'est ce que j'appelle une crise métaphysique. Et du coup, nous n'avons pas de véritable modèle à donner à toute une jeunesse en errance, en jeunesse en perdition. Voilà. Et là, ce ne sont pas des réformes de structure qui vont pouvoir donner une solution à cela. Bon. Les crises métaphysiques sont des crises spirituelles, des moments charnières dans l'histoire de l'humanité. Je crois que nous sommes en train...
Est-ce que c'est à la portée de l'école C'est à la portée de l'école, ça, de redonner du sens à la vie, de lutter contre les crises métaphysiques. Et à quelles conditions peut-elle le faire? Vous dites beaucoup, il faut remettre de la culture générale et remettre de la culture populaire, d'ailleurs.
Oui. Évidemment que c'est à la portée de l'école, mais pas uniquement de l'école. Culture générale et culture populaire contre la culture de divertissement. La culture populaire est quelque chose qui a disparu et qui a été remplacé par une culture...
Il y a toute la vie scolaire, je suis d'accord avec M. Redeker, il y a toute la vie scolaire. C'est-à-dire, dans un établissement, les élèves y passent quand même pas mal de temps. Alors, je parle plutôt des lycéens et des collégiens que des élèves de l'école primaire, mais ils y passent du temps. Et là, on peut leur apprendre les règles de vie, celles qui donnent un sens à la vie. Et je regrette pour ma part que, justement, on s'aperçoive tout d'un coup, à l'occasion des attentats, que peut-être l'éducation nationale est déficiente sur ce point, mais ça fait des années qu'on le dit, qu'effectivement, du point de vue de la vie scolaire, eh bien, on n'en a pas aujourd'hui cette éducation. Et je dois dire que, de ce point de vue, les établissements d'enseignement privés sont en avance sur les établissements d'enseignement public, parce que, justement, ils essaient de donner une dimension éducative.
Le recrutement social n'est pas du tout le même dans les écoles
privées. Ça dépend des endroits.
Ça dépend. Ah non, mais je vous assure, ça dépend.
Non, voilà. Statistiquement, vous avez raison au niveau global. Mais en Bretagne, je le disais tout à l'heure à ma voisine, je le disais tout à l'heure, en Bretagne, le nombre de boursiers est absolument identique dans le public et le privé. C'est aussi populaire des deux côtés.
Bon, donc finalement, là, vous êtes tous prêts pour les pistes proposées par François Fillon, l'uniforme...
Non.
Carole Barjon.
C'est pas ça qui va changer les choses.
Très honnêtement, ça, c'est un sujet... c'est pas forcément secondaire, mais c'est pas la priorité pour moi. Pour moi, la priorité... Alors, si, la restauration... Parce qu'à travers l'uniforme, au fond, ce qu'on veut, c'est une forme de restauration de l'autorité, d'une certaine forme de discipline. Oui, au fond, c'est ça qu'il y a derrière. Oui. Et puis surtout...
Marketingement parlant, ça rassure l'opinion, non ?
Et surtout ne plus voir les différences sociales. Parce qu'il y a quand même ça comme idée derrière.
C'est une croyance.
Pourquoi
J'étais
pas
J'étais en Chine populaire quand ils étaient tous
en
uniforme.
Mais en même temps, Carole Barjon, vous nous dites dans votre livre, les différences, les inégalités scolaires, c'est finalement ce qui a tué le mammouth, c'est lutter contre ces inégalités. On a tellement cherché à lutter contre ces inégalités que finalement, on les a creusées. Alors, est-ce qu'il faudrait déporter le débat sur autre chose que les inégalités scolaires ou pas ?
Ben, si vous voulez, les inégalités scolaires, elles viennent du fait que... Alors d'abord, des inégalités sociales qui existent déjà dans la société.
Oui, mais il y a beaucoup de pays évident, qui parviennent à les gommer au bout de quelques années
d'école
primaire.
Non, mais l'école, si vous voulez, pour un enfant qui est dans un milieu défavorisé, très défavorisé, et qui n'a donc pas la chance d'avoir des parents cultivés qui peuvent lui expliquer la leçon, les devoirs, etc., eh bien, sa seule issue, c'est l'école. Sa seule issue, c'est l'école. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, si on ne remet pas les devoirs dirigés, surveillés et dirigés, corrigés même, bon. Et si on ne met pas l'accent sur les fondamentaux absolument.
Lire, écrire, compter.
Et sur Robert le français,
il est fichu. Robert Redeker, il nous reste quelques secondes avant la fin de l'émission.
Voilà, un mot. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Tout-le-Monde avec quoi je suis d'accord, c'est l'extension du sens jusqu'aux parents. Lorsque j'étais enfant, j'ai appris la langue française à l'école et je ramenais les devoirs à la maison et mes parents, puisque je suis un enfant d'immigration, mes parents ont appris la langue française et la culture française en m'aidant à faire les devoirs. C'est-à-dire en même temps que moi, le soir, à la lumière de la chandelle, puisque mes parents étaient ouvriers agricoles dans l'Ariège. Voilà. Donc, le sens s'étend par l'école jusqu'aux parents. L'école peut réussir cela.
Y compris avec des parents moins éduqués.
Monsieur Germain et Albert Camus.
Merci à vous tous. Carole Barjon, vous publiez « Mais qui sont les assassins de l'école ?» aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Bernard Tout-le-Monde, vous publiez « Si on tuait le mammouth ?» aux éditions de l'Aube. Robert Redeker, nous étions en ligne avec vous. Merci d'avoir été également avec nous. « L'école fantôme » publiée chez Desclée de Brouwer. Dominique Nachury, merci à vous. Vous êtes député Les Républicains du Rhône. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins. Charlie Dupiot présente l'émission sur le thème « Pourquoi tant de haine sur Internet ?» Et bien sûr, vous êtes invité à réagir au 33 1 84 22 71 71. Quant à moi, je vous retrouve pour des émissions en public à Abidjan à partir de vendredi. Pour ceux qui veulent assister aux enregistrements, rendez-vous sur notre page Facebook. On parlera des jeunes et de leurs projets d'entrepreneuriat avec le coach Didier Acouetté et de l'apatridie. À très vite.